Bonjour à tous et bienvenue. Comme vous voyez, c'est une intro improvisée, donc j'ai besoin de mes petits papiers pour m'y retrouver. Donc voici la deuxième séance du cycle qui s'appelle « Au temps des grandes découvertes, quand l'Europe renaît ». Alors aujourd'hui, le conférencier, c'est Jean-Jacques Hervec. Alors je suis ici parce que c'est un vieux copain, mais ce n'est pas à ce titre-là que je vais vous le présenter. Donc je vais quand même détailler tes titres. Donc Jean-Jacques a commencé sa carrière d'historien au FNRS, et puis il a fait une thèse sur les corporations dans les Pays-Bas autrichiens, sous la direction d'Hervé Asquin, puis il est devenu prof à l'ULB, il donne cours en histoire et en faculté des sciences sociales, politiques et économiques, dont notamment, mon papier est bien fait, « Histoire économique depuis la fin du XVIIIe siècle, question d'histoire économique et sociale du XVIe à la Révolution industrielle, séminaire d'histoire des temps modernes ». Donc, je pense qu'il est vraiment parfaitement qualifié pour parler de son titre aujourd'hui, qui est « Les renouveaux de l'économie et le début du capitalisme ». Donc, je crois vraiment que... Juste un mot pour ajouter que quand même, on a eu la chance de l'avoir aussi pendant un certain temps comme prof à Waroké, mais ça, il n'est plus depuis un petit moment. Voilà. Ben, Jean-Jacques, à toi.
Merci beaucoup. J'ai un petit micro ici, moi, je crois. Voilà. Eh bien, mesdames, messieurs, madame Staquet, cher Pierrot, un grand merci de m'avoir introduit ici dans un lieu qui est, je ne dirais pas émouvant quand même, pas à ce point-là, mais enfin, je me suis dit que ça faisait quand même 20 ans que j'étais venu ici pour donner des cours à la salle académique aux premières années de sciences économiques et de sciences économiques appliquées. Et donc, me revoilà 20 ans après, si j'ose dire. Bien. Alors, le thème que nous allons voir aujourd'hui fait logiquement suite à la conférence que vous avez eue il y a 2 semaines, je crois, de Bruno Bernard sur les grandes découvertes. Et forcément, il y aura peut-être, je le crains, quelques doubles emplois par-ci par-là, mais enfin, ce n'est pas trop grave. Je suis en tout cas sûr que vous partez déjà d'une bonne base préalable. Quant au thème lui-même, les renouveaux de l'économie et le début du capitalisme, lorsque Mme Staquet me l'a suggéré, j'ai dit oui. Et puis je me suis dit, oh, j'aurais mieux fait de dire plus petit, parce que le thème est énorme, gigantesque, c'est immaîtrisable en une heure quart, une heure et demie de conférence. En effet, dès qu'on pense à l'idée de renouveau de l'économie, il y a une panoplie évidemment énorme d'aspects qui plongent leurs racines nécessairement dans le Moyen-Âge, parce qu'on ne peut pas parler de renouveau si on ne parle pas de ce qu'il y a eu avant, bien entendu. Et puis de l'autre côté, il y a ce mot redoutable, le capitalisme. Alors là, le nombre d'interprétations qui courent à ce sujet, ou de négations du terme lui-même, c'est tout à fait extraordinaire. Alors, dans la littérature historique, depuis maintenant 2 siècles, parce qu'il y a au moins 2 siècles qu'on s'interroge sur les débuts du capitalisme, dans la littérature, en tout cas celle qui est faite et produite par les historiens, je dirais, quatre grandes orientations, très larges, mais enfin, 4 grandes orientations quand même. La première, c'est, et la plus ancienne probablement, c'est celle qui examine à partir du XVe, XVIe siècle, le développement du commerce. Le commerce en Europe, le commerce dans le monde. Il y a là-dessus une littérature considérable, des histoires du commerce pullulent au XIXe siècle, et des historiens participent abondamment à ce courant-là. Chemin faisant, vers la fin du XIXe siècle, on élargit un tout petit peu le propos, ce n'est plus seulement le commerce en tant que tel qui est intéressant, mais on étend le concept à l'idée de l'instauration d'un capitalisme marchand. Et donc, cette idée, depuis lors, n'a pas quitté les études historiques, et il y a des centaines d'auteurs qui traitent du capitalisme marchand né en Europe, croit-on, quelque part vers la fin du Moyen-Âge, et qui servirait, si vous voulez, à ce qu'on a appelé d'antichambre au capitalisme global. Premier volet, l'axe histoire du commerce. Deuxième axe, peut-être plus récent, c'est celui qui envisage la question des renouveaux de l'économie et des débuts du capitalisme sous l'angle de la mondialisation. Dit encore autrement, on voit dans les grandes découvertes et dans toutes les transformations économiques qui apparaissent au même moment, on y voit une première mondialisation, en quelque sorte. Et donc, on va étudier principalement comment se sont faits les contacts entre ce qu'on appelait encore la civilisation occidentale et les mondes périphériques. Dit encore autrement, cette étude de la mondialisation, qui a des bases tout à fait économiques, s'ouvrera très vite à l'analyse de type anthropologique. Comment se fait-il qu'une civilisation marchande, agressive, parvient en si peu de temps à détruire tout ce qu'elle touche, en quelque sorte. Et là, c'est un sujet qui est toujours, bien entendu, d'actualité, mais qu'il a été encore bien plus fort il y a quelques siècles. Donc, deuxième axe, les études qui se situent dans la lignée de l'étude de la mondialisation, l'étude des contacts de culture, de la destruction, en fait, des autres cultures non européennes. Troisième axe important d'étude, avec quantité de livres et d'articles, c'est l'étude, cette fois-ci, des transformations internes du système économique, je dirais occidental, disons européen, hein, en gros, les transformations internes dues à la fois à la montée d'une urbanisation considérable, du moins dans certaines régions, et cela évidemment depuis le Moyen-Âge, mais cela croît et embellit avec le 15e, 16e siècle, donc le phénomène de l'urbanisation et tout ce qu'il va apporter comme transformation de rapport de force entre le monde des citadins et le monde rural. Ces rapports vont considérablement se transformer tout au long des 15e, 16e, 17e siècles et vont finalement accoucher de conditions qu'on pourrait appeler des conditions préalables au démarrage économique industriel. Dit encore autrement, donc, on va étudier la chose, si vous voulez, de l'intérieur, du point de vue du rapport du développement rural par rapport au développement urbain. Dans cette même grille d'analyse, donc dans cette même catégorie, les transformations internes du système, il y a un thème qui, depuis maintenant une bonne trentaine d'années, est copieusement étudié. C'est celui qu'on baptise dans la littérature historique la proto-industrialisation. Alors, la proto-industrialisation, c'est, si vous voulez, les premières formes, si vous voulez, de travail industriel qui incorporent de plus en plus de travail salarié et qui soumettent ce travail salarié à des modes d'organisation du travail et à nouveau, inédit, on n'avait pas encore vu jusque-là, et à des techniques nouvelles également. Alors, cette proto-industrialisation n'est pas non plus née avec le XVIe siècle, bien entendu. On peut lui trouver des racines bien loin dans le Moyen-Âge, mais on peut dire, en tout cas on l'a souvent écrit, c'est que la proto-industrie va servir de terreau, en quelque sorte, en modifiant le monde rural, notamment, dans plusieurs pays, notamment en Angleterre. Cette proto-industrialisation, donc, va servir de terreau à l'accumulation nécessaire du capital pour passer au stade du capitalisme industriel. Troisième thème, donc, sur lequel il y a des centaines d'études. Et puis, quatrième, mais j'en resterai à quatre, il y a des travaux aussi très nombreux qui vont cette fois-ci étudier la face parfois pas réjouissante du développement du capitalisme en Europe, qui est corollaire, en quelque sorte, d'une exacerbation des conflits. Conflits à l'intérieur de chaque pays, qui s'institue de plus en plus souvent en État-nation, ou en tout cas qui tend vers une formation d'État-nation, donc conflits internes, mais aussi et surtout les conflits entre les différentes nations, qui se constituent comme des entités souveraines du point de vue territorial. Et dont le champ de bataille, d'abord premier, c'est l'Europe elle-même, mais qui exportent très largement leurs conflits internes à l'extérieur. En quelque sorte, c'est une étude, cette fois-ci, des conflits, qui sont un des ferments, à ce moment-là, de l'explication du dynamisme de l'économie européenne de l'époque. Donc, quatre axes. Le commerce, le capitalisme marchand, la mondialisation et les contacts de culture, les transformations internes rurales et proto-industrielles, et la quatrième, la compétition tant interne européenne qu'externe et qui s'exprime de manière violente dans la plupart des cas. Bien. Sur ces quatre thèmes, on pourrait faire 120 heures de cours, et encore, on n'aurait même pas encore commencé à défricher le début. Donc on va vraiment faire du tout grand rabotage. Mais on ne part pas de rien. Personne ne part de rien dans ce type d'études, et je voudrais simplement vous indiquer quelques noms, enfin je développerai certains, qui ont apporté par leur réflexion, qui ont nourri la littérature historique jusqu'à nos jours sur le traitement de cette question des débuts du capitalisme. Donc, grand nombre d'auteurs ont inspiré d'une manière ou d'une autre, depuis presque 200 ans évidemment, hein, l'étude des débuts du capitalisme. Alors, bon, à tout seigneur, tout honneur quand même, Karl Marx. À chaque crise du capitalisme, il se trouve toujours quelqu'un pour dire qu'il faudrait le relire, parce que, et donc c'est l'occasion, de faire un petit retour aux sources. Alors, je vous l'ai montré dans tous ces états, hein, depuis le jeune Hegelien jusqu'au vieux prophète, donc pour que chacun puisse trouver ce qui lui plaît dans cette figure. Alors Marx. Marx, ce qu'on va surtout privilégier, évidemment, c'est d'abord son œuvre principale, de ce point de vue-là en tout cas, c'est-à-dire Le Capital, dont le premier volume sort en 1867. Si on regarde quand même cet ouvrage, qui est beaucoup plus, auquel on fait plus allusion qu'on ne le lit, il y a toute une partie sur la création de l'antichambre du capitalisme, ce qu'il appelle même expressément l'antichambre du capitalisme. Et, bien entendu, il donne les informations, il traite les informations qui étaient disponibles en son temps, mais on voit dans son exposé historique, donc dans le livre 1 du Capital, on voit qu'il met en avant toute une série de mécanismes, qu'il montre toute une série de mécanismes de ce qu'on appelle l'accumulation du capital, ou encore plus simplement l'accumulation dite primitive du capital, comment les premiers éléments de capital peuvent être stockés, au détriment de qui, et surtout comment ce capital va se reproduire, par quelles nouvelles techniques, par quelles nouvelles formes d'organisation de l'exploitation économique, on en arrive à une reproduction sans cesse élargie du capital. Mais non sans crise. Non sans crise, et cela dès le début de cette accumulation du capital. On y trouve aussi des notions quand même importantes sur la marchandisation de l'économie et sur l'extension du salariat, c'est-à-dire du travail comme marchandise. Alors, c'est vraiment de grandes généralités que je vous dis là. Enfin, ces concepts-là, qu'on les interprète comme on veut, on les retrouve pratiquement chez tous les auteurs, historiens, économistes. Je dirais, ils sont à peu près tous comme M. Jourdain, ils font du marxisme comme M. Jourdain faisait de la prose, sans le savoir, hein, parfois, nécessairement. Donc, c'est vraiment incorporé, je pense, quand même fondamentalement, à l'étude historique. Premier auteur, bon, on y reviendra si c'est nécessaire. Second auteur, lui aussi gigantesque, à partir duquel on a écrit des bibliothèques entières, c'est le sociologue allemand Max Weber. Alors, Max Weber, les historiens s'intéressent principalement, il y a d'autres raisons de s'intéresser à Max Weber, mais les historiens de l'époque moderne et contemporaine s'intéressent à Max Weber principalement, si j'ose dire, pour deux écrits. Je reviens un peu en arrière. Voilà. Le fameux ouvrage, enfin, une grosse brochure finalement, c'est pas petit ouvrage, dites ce que vous voulez, qu'il a publié en 1905 et qui s'intitule « L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme ». Il existe de nombreuses traductions en français, et c'est assez intéressant d'ailleurs de voir qu'elles divergent quand même pas mal. Un texte allemand peut être traduit de manière parfois assez divergente. Alors, ce n'est pas seulement des problèmes de traduction, c'est aussi des problèmes d'interprétation de la pensée de Max Weber. Alors, je suis toujours très surpris, mais moi je suis historien, de voir comment parfois des économistes et des sociologues comprennent Max Weber. Avec des raccourcis saisissants, du style « l'esprit du capitalisme est inhérent au protestantisme, c'est le protestantisme qui apporte en quelque sorte les éléments nécessaires à un développement capitaliste débarrassé des freins de la pensée conservatrice, catholique, médiévale. Bon, » ça, c'est une idée qui est assez fréquemment colporté, mais qui est loin, loin de faire l'unanimité chez les historiens, ça, c'est sûr. En tout cas, il met l'accent quand même sur un phénomène très discutable, mais quand même hyper important, c'est l'importance des mentalités et des comportements collectifs religieux dans la vie quotidienne, dans la vie matérielle, et en particulier dans la recherche de l'intérêt. De son intérêt particulier. Et donc, il va mettre en avant toute une série de thèmes, surtout à partir d'écrits de puritains anglais du XVIIe, XVIIIe siècle, et non pas d'écrits des luthériens ni des premiers calvinistes. Quand on regarde, il cite surtout des sources quand même plus tardives que celles qui nous intéressent au premier chef. Enfin, on peut considérer qu'il va montrer qu'un changement fondamental, comme important, dans les conceptions religieuses répandues en Europe, allait modifier le comportement matériel dans la recherche du profit et surtout dans la légitimation du profit accumulé. J'y reviendrai peut-être par la suite, mais enfin, on peut décliner Max Weber sous différentes formes, bien entendu, mais enfin, c'est une idée omniprésente dans les études historiques, bien entendu. Ça, c'est le premier ouvrage. Et puis, il y a un ouvrage qui est bien moins fréquenté par les sociologues et les économistes, malheureusement. C'est son cours d'histoire économique. Parce que Max Weber, à la fin de sa vie, donc 1919-1920, il meurt en 1920, a eu une chaire d'histoire économique à l'université de Munich. Et les notes d'étudiants ont été publiées. C'est des notes assez détaillées, où il donne une grille de lecture. Vraiment, une grille de lecture de la constitution d'une société de type capitaliste, principalement en Europe, bien entendu. Alors, cette grille de lecture, je voulais vous l'aplatir gentiment, enfin, dans le livre c'est bien mieux expliqué que je ne pourrais le faire ici, il part de ces grandes idées qu'on retrouve dans sa sociologie générale d'ailleurs, sur la rationalisation des comportements, entre autres rationalisation des comportements de pouvoir, de pouvoir politique, et sur la bureaucratisation des systèmes sociaux et politiques. Alors, ce sont des termes, si vous voulez, hein. Retenons que bureaucratisation peut être l'équivalent d'une volonté d'instaurer des appareils d'État en Europe qui vont pacifier la société, qui vont en constituant des États avec des institutions, avec des appareils administratifs de plus en plus sophistiqués, de plus en plus lourds, essayer d'aplanir, ou réussir même à aplanir, la violence sociale qui existait, qu'on n'a pas du tout, qu'on n'a pas aboli, bien entendu, mais qui a permis de créer un certain calme et une certaine sûreté, notamment une sûreté dans les échanges économiques entre les individus. Donc, grande idée sociologique, donc rationalisation des conduites, bureaucratisation des institutions visant à créer une sécurité, une sûreté, notamment dans le domaine des rapports économiques entre les gens. Ensuite, il dit, mais capitalisme, qu'est-ce que c'est que ça? À partir de quand peut-on parler d'une société qui serait globalement capitaliste. Eh bien là, les datations, évidemment, varient d'un auteur à l'autre, mais il considère qu'il y a deux conditions préalables fortes qui font que, qui posent problème, en fait. Première idée, première condition préalable, il pense qu'il y a du capitalisme depuis l'Antiquité, mais qu'on ne peut parler de société capitaliste qu'à partir du moment où se généralisent des grandes entreprises lucratives. Donc, ça peut paraître curieux comme terme, mais c'est dû à la littérature de l'époque, qui voyait la naissance du capitalisme moderne, donc moderne 19e, 20e siècle, qui voyait la naissance de cela essentiellement dans la concentration des travailleurs dans de grands ensembles industriels. Et qui, de ce fait-là, considérait que les grandes manufactures d'État, créées à l'époque de Louis XIV, mais aussi Pierre le Grand en Russie et ailleurs également, que ces premières formes de concentration de main-d'œuvre hors des petits ateliers étaient le point de départ d'une véritable société capitaliste moderne. Là, Max Weber accepte partiellement cette idée, mais dit, mais attention, ces grandes manufactures d'État, en quelque sorte, n'ont jamais réussi, et même parfois n'avaient pas pour but, de réaliser du profit à titre, je dirais, privé. Ce sont des entreprises d'État, souvent même déficitaires, en quelque sorte, et qui n'assurent pas une accumulation et une reproduction certaine du capital. Et donc, dit-il, certes, il y a des innovations dans ce système des grandes manufactures du XVIIe et du XVIIIe siècle, mais elles ne sont pas suffisantes pour justifier l'essor, elles ne permettent pas de justifier l'essor, en tout cas, d'une société pleinement capitaliste. Il faut donc attendre, en fait, la révolution industrielle, celle de la seconde moitié du XVIIIe siècle, pour que, selon Max Weber, une des conditions préalables soit requise. Et puis, et là aussi ça peut paraître curieux qu'il le mette sur le même plan, enfin, c'est ce qu'il fait dans son ouvrage, il dit qu'il y a une autre condition préalable qui, je dirais, est, pour un peu jargonner, une condition de gestion. Pour qu'il y ait capitalisme, en quelque sorte, complet, couvrant l'ensemble des activités économiques, il faut que se développe ce qu'il appelle le compte de ou en capital. Il faut savoir qu'à son époque, donc il écrit, enfin il fait son cours en 1919-1920, il y avait quantité d'études sur le développement du calcul dans l'activité économique, et en particulier sur l'appropriation par la bourgeoisie marchande à partir du XVIe siècle, son appropriation des techniques comptables. Il faut de grandes entreprises, mais si on ne parvient pas à avoir une idée de leur fonctionnement, si on ne parvient pas à maîtriser une comptabilité des opérations, eh bien, cela restera toujours évanescent, peu fiable, et donc il met l'accent sur l'introduction du calcul, et en particulier sur les progrès de la comptabilité dans ce domaine-là. Deuxième condition, selon lui, préalable. Et puis, il passe en revue les prérequis, qui, de manière quand même assez intéressante, avec un vocabulaire différent, rejoignent toute une série de thèmes qu'on trouvait déjà chez Marx. Pour qu'il y ait, il fait une distinction entre conditions préalables et prérequis, bon, ça me paraît un peu subtil, mais enfin, les prérequis sont l'appropriation libre des moyens de production, ça veut dire en quelque sorte qu'il n'y a pas de domaine réservé à telle ou telle caste ou catégorie, tout qui peut s'acheter un moyen de production a la possibilité de le faire, donc pas de domaine réservé, la terre peut être achetée à celui qui a le pouvoir de l'acheter, elle n'est pas réservée à une catégorie ou à un ordre social particulier, bon, donc on dit en gros destruction du féodalisme, liberté du marché, c'est-à-dire plus de domaines où il y a des accès privilégiés ou réservés à quelques-uns au marché, technique rationnelle, droit rationnel, là encore il y aurait beaucoup à dire, travail libre. Travail libre, ça c'est un thème qui est récurrent, c'est le fait, selon Weber et beaucoup d'autres historiens économistes, d'une montée nécessaire du salariat. Sans ce travail salarié, créateur de profit, il n'y a pas, in fine, de possibilité de développer de manière durable un système de type capitaliste. Et enfin, dernier prérequis qu'il cite expressément dans son ouvrage, c'est la commercialisation de l'économie, c'est-à-dire une abstraction de plus en plus grande de la propriété. La propriété n'est pas seulement la propriété directe de tel ou de tel bien, elle est la propriété de titres qui sont eux-mêmes négociables. C'est-à-dire, en gros, hein, le développement d'activités boursières, le développement d'activités bancaires et autres. Et en plus, dit-il, la spéculation. La spéculation n'est pas une chose en soi destructive, elle est le jeu nécessaire du capitalisme pour qu'il puisse arriver à maturité. Alors, ces thèmes-là sont extrêmement vastes encore une fois, mais on les retrouve vraiment dans des compositions diverses et variées, dans pratiquement toutes les études sur le renouveau de l'économie à partir du XVIe siècle. Bien, alors, oui, je reviens un peu en arrière. Alors là, je ne vais pas vous infliger toute une littérature, hein, mais enfin, il faut quand même que je vous dise ces noms-là. Il y a un personnage, bon, dont vous voyez le portrait ici, qui a été extrêmement connu jusqu'au début des années 30. De nos jours, en voyant son portrait, Marx, on le reconnaît, hein, forcément, Max Weber, les sociologues le reconnaissent. Celui-là, il n'est pas si connu que ça, hein, si je peux dire. Pourtant, il a été une des grandes gloires de l'histoire économique et de la sociologie universitaire entre 1900 et 1930. Il s'appelait Werner Sombart. Werner Sombart, historien de formation, allemand. C'est un contemporain de notre grand historien national, Henri Pirenne. C'est des gens qui ont vécu dans les mêmes eaux. Donc, c'est un pur produit de l'école historique allemande de la fin du XIXe siècle et qui a eu l'idée énorme aussi, hein, on n'hésitait pas, c'était massif, qui a eu l'idée de fournir un travail historique qui donnerait un fondement au marxisme orthodoxe de son temps, au marxisme de la chair, au marxisme académique, hein, au marxisme, je dirais, des intellectuels. Donc, son idée, c'était de donner un fondement historique à ça par l'étude de l'économie depuis le pré-capitalisme jusque à ce qu'il a appelé le capitalisme tardif, Spätkapitalismus, le déclin du capitalisme. Depuis le pré-capitalisme jusque après la guerre 14-18, en fait, qui pour lui est le début de la fin. Bon, alors, Werner Sombart a écrit entre 1900 et 1920 une somme de plusieurs volumes qui s'intitule « Le capitalisme moderne », qui a servi à toute une génération d'historiens jusque dans les années 60, en quelque sorte, 60-70 à peu près, d'encyclopédie, quelque part. Très curieusement, l'ouvrage, qui est considérable, hein, a été d'abord publié en allemand, bien sûr. Il a été traduit en anglais, en italien, voilà, tout ce que vous voulez, mais en français, ce n'est que la partie finale qu'on a traduite en français. Donc les premiers volumes sur ce qu'il appelait le pré-capitalisme et le proto-capitalisme n'ont pas été, à ma connaissance, traduits en français. Mais tous les grands historiens anglo-saxons et les historiens français qui avaient une connaissance suffisante de l'allemand ont très généreusement puisé dans les réflexions, les travaux de Werner Sombart. Alors, comme il n'est peut-être pas très connu de tout le monde, ce qui est bien normal, pourquoi un homme qui manifestement avait tellement écrit et inspiré tant de choses est-il à peu près tombé dans l'oubli du grand public? La raison est assez simple, hein. La première, c'est la guerre 14-18. Il est patriote allemand et donc forcément après la guerre, sa popularité dans le monde académique général baisse évidemment, quoique ne s'éteint pas tout à fait. Hein. On le traduit quand même encore en anglais et même en français, comme vous l'avez vu, après la Première Guerre mondiale. Mais c'est évidemment avec... Il a eu le malheur de mourir tard. Avec la prise du pouvoir en Allemagne du nazisme, il ne va pas, comment dire, il ne va pas applaudir à ce nouveau régime, mais il ne va pas non plus avoir une attitude d'opposition. Il va maintenir en quelque sorte ses vieilles positions nationalistes. Et donc, bon, il n'a pas dénoncé publiquement les agissements du nouveau régime. Et donc, là, il y a eu quand même une désaffection importante, je crois, d'une partie du public qui ne le reconnaissait plus, ce grand intellectuel qui avait apporté des choses importantes quand même, ne le reconnaissait plus sous les traits d'un vieux professeur suiviste, ne protestant plus devant les malheurs du pays. Et puis il y a une troisième chose qui fait pour laquelle Werner Sombart a aussi un peu perdu de sa notoriété, pas à l'époque, hein, pas à l'époque, mais de nos jours, oui, c'est qu'il a écrit en 1911 un ouvrage sur les Juifs et la vie économique. Alors, cet ouvrage, les Juifs et la vie économique, l'ouvrage n'est pas un ouvrage antisémite. On ne peut pas le dénaturer. Mais il est obsédé par la question, comme beaucoup l'étaient d'ailleurs à l'époque. Et c'est lui l'auteur d'une... parce qu'il prend le contre-pied en quelque sorte de Max Weber. Ils étaient en compétition intellectuelle à l'époque. Alors, autant Max Weber avait pu faire croire éventuellement, si on l'interprète bien, que le capitalisme devait son plus grand essor grâce au protestantisme, Max Weber dit, ben non, pas du tout, les protestants sont des juifs qui s'ignorent. Et donc, il remet l'accent, si vous voulez, sur cette idée qui revient aussi. Hein. Il y a même encore un ouvrage de Jacques Attali, il y a quelques années, hein, sur les juifs et le capitalisme, etc. Idée qui revient fréquemment, le capitalisme s'introduit dans la société par les jeux de l'argent, par les jeux du crédit, de l'usure, et ça reste dans les mentalités... Ça reste lié, si vous voulez, à l'existence du judaïsme à tel ou tel endroit. Alors, les preuves de ça, les preuves ou les non-preuves, peu importe, sont parfois un peu curieuses. Werner Sombart dit, par exemple, ça peut paraître bizarre comme raisonnement, que c'est dans les pays où les juifs ont été tolérés auprès des cours que le capitalisme a pris un bon essor, parce que la finance s'est bien comportée. En revanche, dans les pays où les juifs ont été maintenus loin des centres de pouvoir, où ont été éjectés, expulsés, comme au Portugal, comme en Espagne, bien là, le capitalisme n'est arrivé que tardivement. Donc, c'est peut-être pas une bonne preuve, mais enfin, c'est une idée qu'il met en avant et qui, à l'époque, était débattue de manière tout à fait académique, je veux dire. Hein. Bien entendu, après... l'extermination, le génocide de la Seconde Guerre mondiale, même si Werner Sombart, dans son écrit, n'est pas un auteur expressément antisémite, ce type d'argumentation n'a plus été audible ni recevable, en quelque sorte. Quoique de nos jours, il y a quand même des écrits dans lesquels on peut le retrouver. Bien. Alors, bon... Je vais aller plus vite parce que sinon je ne vais plus pouvoir vous parler de la matière proprement dite. Il y a deux auteurs dont je dois quand même vous dire, ne serait-ce que le nom. Hein. Lui, c'est Fernand Braudel. Fernand Braudel, c'est le grand maître de la science historique moderne française qui a eu une production extrêmement importante. Je ne retiendrai que sa fameuse trilogie publiée à la fin des années 60 et dans les années 1970. C'est une trilogie dont le titre général est « Civilisation matérielle, économie et capitalisme du XVe au XVIIIe siècle ». Trois volumes, massifs. Premier volume, « Les structures du quotidien ». Il part de l'échange à partir de la base. Donc, les structures vraiment du quotidien. Qu'est-ce qu'on mange? Comment on s'habille? Enfin, toutes les choses, on ne peut plus matérielles. Comment le quotidien se construit-il? Deuxième volume, les jeux de l'échange. Troisième volume, troisième volume, le temps du monde, comment se constitue, en quelque sorte, hein, cette mondialisation. Je ne sais pas s'il utilise déjà le terme mondialisation, mais en fait c'est ça. Comment passe-t-on alors à une généralisation d'une société de type capitaliste, depuis les balbutiements de la civilisation matérielle médiévale jusqu'à la révolution industrielle anglaise du XVIIIe siècle. Alors, je pourrais m'arrêter ici et dire, voilà, allez l'acheter, et c'est évidemment, il y a tout, quoi, si je peux dire, il y a tout. Tout ou à peu près. Hein. Le grand mérite de Fernand Braudel, c'est d'avoir fait une énorme synthèse. C'est un des derniers historiens, au fond, qui a osé, parce que de nos jours, on n'ose plus vraiment faire ça, je vais oser embrasser l'histoire du monde entier, je vais faire la somme des grandes idées qui ont cours sur le développement entre le XVe et le XVIIIe siècle, et je vais proposer une grille de lecture de tout ça, compréhensible par tout le monde. Il est un des derniers, vraiment, à avoir osé le faire. Alors, Fernand Braudel va, évidemment, n'a pas tout inventé. Quand on regarde ses sources d'inspiration, ben, il y a très clairement Marx dedans. Il y a aussi Werner Sombart. Il y a Max Weber. Donc, on ne construit pas à partir de rien. Mais aussi quantité d'œuvres d'historiens peu théoriques, peu théorisants, mais qui avaient apporté des lumières nouvelles sur quantité d'aspects du capitalisme moderne. Je ne vais pas vous résumer, mais enfin, il y a quand même une notion qui revient très fréquemment chez lui et qui sera même surdéveloppée encore par la suite, c'est l'idée d'économie-monde. Alors, l'économie-monde, ce n'est pas l'économie du monde entier. L'économie-monde, c'est, si vous voulez, au départ, un système économique qui, en gros, sur une superficie donnée, se suffit à lui-même, qui a ses règles, ses institutions, ses conflits internes et tout ce qu'on veut, mais qui vit comme un monde en elle-même. Ça, c'est une économie monde. Et il part, en quelque sorte, avec, depuis l'Antiquité, hein, il part depuis, l'idée qu'il y a, il y a plusieurs économies monde. Donc, pour ce qui est de notre Antiquité, il y a sur la superficie du globe plusieurs économies monde, qui, certaines d'entre elles, n'ont aucun contact les unes avec les autres, ne se connaissent pas, n'ont aucun contact, mais qui se suffisent très bien elles-mêmes, qui ont leur mode de développement à eux. Comme ça. Alors, certaines, bien sûr, de ces économies montent, et cela depuis l'Antiquité, notre Antiquité, ont des contacts, hein, quand même. Il y a des contacts parfois, mais très limités, et qui ne parviennent pas à modifier les structures de l'une ou de l'autre. Les structures de chacune de ces économies montent restent intactes, même si quelquefois elles se touchent. Ce qu'il va montrer, c'est une longue saga évidemment, hein, c'est comment on est parti, pour ce qui nous concerne, d'une économie monde basée essentiellement sur la Méditerranée. L'héritage de l'Antiquité gréco-romaine, donc un monde économique basé sur les échanges du monde méditerranéen, où les marchandises circulent d'un bout à l'autre. Bon. Comment on est passé de ça à, au bout de quelques siècles, une économie monde qui va se déplacer vers le nord, c'est-à-dire qu'elle va passer à partir de la fin du XVe siècle, début XVIe siècle, vers de nouveaux centres de gravité. Les nouveaux centres de gravité ne seront plus les villes du sud, ce sera plus Rome, certainement plus Rome, ce sera plus, même plus Gênes, ce sera même plus Venise, quoique ces villes restent toujours très importantes, bien sûr. Ce sera de plus en plus Anvers, qui sera le magasin du monde au XVIe siècle, puis Amsterdam, puis Londres, puis New York. Et puis après, on ne sait plus, peut-être que ça va encore migrer plus loin, mais il n'a pas été contemporain des faits. Alors, je résume ça vraiment très fort. Alors ça, c'est une économie monde. Mais c'est une économie monde qui respire. Dit encore autrement, une économie monde, pour lui, a un ou plusieurs noyaux. Par exemple, si on prend la fin du Moyen-Âge, l'économie monte ou le centre de décision des grandes opérations économiques sur une longue distance, ben c'est en gros les villes d'Italie du Nord. C'est là qu'a lieu l'innovation aussi, en matière financière, monétaire, bancaire, etc. Donc, plusieurs centres, parfois, se trouvent dans le noyau. Autour du noyau, il y a une zone intermédiaire, c'est en quelque sorte le ventre. Ça fait partie de l'organisme, c'est la zone avec laquelle le centre fait perpétuellement des échanges aller-retour. On achète et on vend. Mais c'est le centre qui décide, c'est le cerveau, si vous voulez, si on prend une comparaison de type organique. Et puis, autour de cette zone intermédiaire, qui va bouger, évidemment, c'est pas un cercle, hein, elle bouge dans le temps, il y a une périphérie. Une périphérie, donc c'est les confins, si vous voulez, où, en quelque sorte, on ne redistribue pas de richesses, mais où on va en chercher, en quelque sorte. Et ce qu'il va montrer, c'est que, en finalement très très peu de temps, cette économie monde, qui à la fin encore du XIVe siècle, est encore essentiellement méditerranéenne, va, au bout de trois siècles tout simplement, devenir une économie monde hyper dilatée, qui a déjà englobé, détruit d'autres économies mondes, hein, les Incas, les Aztèques, c'était des économies mondes en elles-mêmes, disparues, complètement détruites par la logique économique de l'économie monde européenne, et va ensuite, 19e, 20e, gravement contaminer les autres économies mondes, chinoises par exemple, etc. Bon, je vous invite à le lire parce que c'est beaucoup plus subtil et plus détaillé que ce que je vous en dis ici. Dans ces références, il met aussi une chose qui est intéressante, c'est l'idée d'étage de la vie économique. Alors, quand on parle capitalisme, comme ça on dit le capitalisme, pour beaucoup de gens, c'est une affaire de traders, de gens qui... Enfin, c'est la haute finance, quoi. Hein, là, Brodel a un avis tout à fait curieux, semble-t-il. Il décèle, si vous voulez, trois étages dans la vie économique. Ce qu'on pourra appeler l'économie de base, l'économie, entre guillemets, naturelle, que l'on retrouve dans toute société, qui est une économie basée sur l'échange direct de biens ou de services. Alors, on me dit, oui, mais ça, c'est la préhistoire, ça, sauf que dès qu'il y a une crise un peu importante, cet étage-là, qui était énorme, c'était le fondement même, cet étage réoccupe toute la place qu'on lui avait prise. Dès qu'il y a une grosse crise, que la monnaie ne vaut plus rien, et c'est arrivé jusqu'encore très récemment dans l'histoire de l'Europe, eh bien, cette économie dite, entre guillemets, naturelle, reprend toute la place qu'elle avait dû céder auparavant. Donc, elle n'est pas morte. Bien sûr, elle se comprime sous les coups de butoir des étages qui vont venir au-dessus, mais il ne faut pas croire qu'elle est une préhistoire, un truc primitif, elle est toujours bien là, en quelque sorte. Bon, premier étage, si vous voulez, l'économie, entre guillemets, naturelle, basée sur l'échange de biens directs et de services, à plus ou moins courte distance. Ensuite, ça depuis au moins quand même l'Antiquité, l'économie qu'il va appeler l'économie de marché. L'économie de marché, c'est une économie qui, évidemment, va en se complexifiant par l'introduction de l'échange monétaire. Et là encore, les grandes découvertes ont créé un grand bouleversement dans l'économie monétaire du monde entier. Alors, cet étage-là va peser de plus en plus lourd. Il va dicter de plus en plus sa règle à l'ensemble du fonctionnement économique des économies mondes présente à ce moment-là. Il va se dilater de plus en plus. Mais le marché, dit Brodel, le marché, c'est pas le capitalisme. Contrairement à ce que on dit en général, quoi, on dit le capitalisme, c'est le marché. Et il dit non, le capitalisme, c'est le monopole. Le capitalisme, c'est en fait l'appropriation de ressources rares sous un régime de non-concurrence ou de la moindre concurrence possible. Ça, c'est le capitalisme pour lui. Il dit le grand profit, c'est là qu'il se fait. Le marché fait du profit, bien entendu, mais le grand profit, c'est le grand profit du monopole et de l'accaparement de ressources rares à l'échelle de l'univers. Là aussi, c'est quand même une idée qui n'est pas sotte, hein, bien entendu. Et il le montre, évidemment, à travers l'histoire. Bien. Alors, cet ouvrage... Oui, donc, oui. Brodel. Je n'ai pas l'image ici, mais enfin, je vous le dis comme ça. Donc, il y a la trilogie de Brodel. Je, honnêtement, je vous la recommande, c'est quand même très très captivant comme ouvrage, mais c'est un peu massif. Alors, dans les années 70, Braudel, qui était un homme extrêmement connu, hein, c'était vraiment le pape de la science historique, en tout cas chez les francophones, a été invité aux États-Unis et il a fait tout un périple dans les universités américaines, c'est un peu comme le French Doctor, comme ça, on l'a invité à faire une... comme on fait aux États-Unis, comme ça, on fait un speech, comme ça, très rapide, et il a en quelque sorte, pour le public américain, comment dire, compacté sa trilogie, et il en a fait donc une publication qui est sortie, je crois, l'année même de sa mort, 1985, et qui s'intitule « La dynamique du capitalisme ». C'est un petit volume, mais où vous trouverez, si vous voulez, la forme la plus compacte, hein, donc sans les exposés historiques longs qu'on peut trouver dans son ouvrage proprement dit. Braudel, et puis, mon introduction sera finie, un qui n'est pas historien, tiens, un sociologue américain, Immanuel Wallerstein, qui par ailleurs est docteur honoris causa de l'Université libre de Bruxelles, qui dirige, maintenant il est âgé, mais qui a dirigé, en tout cas pendant de nombreuses années, le centre Braudel à New York. Donc Braudel, on a donné son nom à un centre d'études historiques et économiques à Braudel. Wallerstein, donc, va publier une série d'ouvrages, dont notamment Le système du monde du XVe siècle à nos jours, qui est un vaste panorama, en quelque sorte redigéré par un sociologue, si j'ose dire, hein, du matériau historique fourni par Braudel, en quelque sorte. Donc si vous n'avez plus d'accès à des démonstrations de type sociologique et économique, c'est un ouvrage de tout grand intérêt. Et là, donc, il y a plusieurs volumes. Ici, c'est déjà le volume 2, « Le mercantilisme et la consolidation de l'économie monde européenne ». Il y en a un qui part, le premier volume part en fait des grandes découvertes, en quelque sorte. Mais bon, je ne vais pas insister plus avant. Il a aussi fait un petit ouvrage, aussi très bien, dans une espèce de petit que sais-je, mais bien fait, le capitalisme historique. Bien, sur le capitalisme, je vais m'arrêter là parce qu'il y aurait trop encore à développer. Si vous prenez tout simplement la collection que sais-je, tout le monde a au moins un jour commencé par un que sais-je, bien vous remarquerez qu'il y a trois fois, sous le même numéro d'ailleurs, je ne sais plus lequel, mais il n'a pas changé de numéro, mais il y a déjà trois auteurs dans la collection que sais-je qui se sont colletés avec le sujet. Et c'est assez intéressant de voir comment le concept évolue depuis 1948 jusqu'à 2001. Bon, il y a des ouvrages, en veux-tu, en voilà, sur la question. Bien. Bilan. Ben, la première chose qui marque dans toutes ces études, c'est que les grandes découvertes, fin du XVe siècle, ouvrent l'époque d'une marchandisation et d'une accumulation de plus en plus rapide du capital. Mais qu'est-ce que c'est que le capital ? Ben, on peut dire en quelque sorte que c'est un stock de biens créés par du travail passé, du travail déjà accompli. Et donc, la valeur créée par ce travail passé s'accumule, mais pas de manière, pas en le thésaurisant, pas en le laissant comme ça. Il s'accumule, mais il se reproduit. Donc, le mécanisme, en quelque sorte, le mystère, c'est de trouver les formes d'utilisation et de réinvestissement du travail déjà fait, de le condenser sous forme de capital, et de pouvoir le reproduire plus largement qu'il n'était au point de départ. C'est le béaba de la science économique, mais ça n'est pas si simple que cela. Alors, pour que ça marche, il faut une circulation de plus en plus importante du capital lui-même. Quelles sont les caractéristiques principales de la circulation du capital à partir de cette époque-là, donc fin 15e, début 16e? C'est le recours à des forces de travail de plus en plus nombreuses, d'abord, et à des forces de travail qui sont de plus en plus disponibles. Alors, je m'explique. Dans le travail rural, simplement rural, la force de travail disponible ne l'est que rarement pour autre chose, si j'ose dire. On ne peut pas retirer le paysan comme ça pendant la moisson et lui dire « Hop, tu vas faire autre chose, ça ne va pas ». Il faut donc qu'il se crée des catégories de travailleurs qui n'ont que leur travail pour vivre, c'est ce qu'on appelait un prolétaire tout simplement il y a quelques années, qui n'a que son travail pour vivre et qui soit utilisable, disons, tout le temps, ou en tout cas pendant la plus grande partie de l'année, qui ne soit pas lié à la terre, tout simplement, et uniquement à ça, ou bien qui puisse subsister sans vendre son travail. Donc, il y a une partie du monde du travail qu'on va devoir rendre dépendant de la vente et de l'achat de sa force de travail, ce qui n'était pas le cas de la majorité encore auparavant. Donc, premier élément, si on veut accumuler du capital, on va d'abord extraire du travail, et pour extraire du travail, il faut de plus en plus le marchandiser et le salarié. Deuxième aspect de la circulation du capital, c'est l'écoulement des produits. Si les biens ne circulent pas, ben le capital peut se reproduire, mais faiblement. Il faut donc qu'il circule, qu'il sait que les biens stockés matériels puissent circuler de plus en plus. Et c'est, là, on vous en a parlé avec les grandes découvertes, bien entendu, c'est la révolution des transports, entre autres, à grande échelle, qui est encore évidemment vue à notre époque tout à fait minuscule, évidemment, hein, bien entendu, mais qui pour l'époque est quand même tout à fait considérable. Deuxième aspect, l'écoulement des produits. Troisième aspect, les réseaux de distribution. C'est-à-dire qu'il faut que le commerce suive la production, en quelque sorte, ou même parfois la précède. Il faut créer des réseaux qui permettent d'envahir des espaces nouveaux ou vendre la marchandise produite. Cette création de réseau, c'est la commercialisation, c'est le grand développement, en fait, de ce qu'on appelle le capitalisme marchand. Mais ça ne suffit pas. S'il n'y a que des marchands, les marchands ne consomment pas tout eux-mêmes, il faut qu'il y ait aussi des consommateurs, et des consommateurs solvables, qui puissent, en échange du produit qu'on va leur apporter quelquefois de loin, donner en échange pas seulement des produits, mais aussi de nouvelles formes de richesses matérialisées sous une forme de métal précieux ou de monnaie. Donc il faut des consommateurs solvables. Ça n'apparaît pas sui generis, ça n'apparaît pas comme ça tout de suite. Il y a des régions peu intéressantes pour un certain type de développement de capitalisme à un certain moment, parce qu'il n'y a pas de marché possible, faute de consommateurs solvables possibles sur le terrain. Et donc il va falloir les créer aussi, ceux-là. Enfin, cinquième caractéristique de la circulation du capital telle qu'elle se développe au temps moderne, c'est la réalisation d'un profit réinvesti. Alors c'est un autre problème socio-économique important. Du profit, on en faisait déjà bien avant. On n'a pas inventé le profit au XVIe siècle. Mais l'idée, c'est qu'une grande partie du profit créé par des activités économiques était soit thésaurisé, soit dilapidé, servant à des fins non économiques, en quelque sorte. Et que donc, un des mystères, en quelque sorte, c'est comment a-t-on développé l'idée qu'il fallait sans cesse réinvestir dans des activités productives ou commerçantes, le profit déjà réalisé, sans le dilapider pour des dépenses de luxe, de prestige ou de statut social. Et là, peut-être que le protestantisme a joué effectivement un rôle important. Bref, tous ces éléments, recours à la force de travail salariée, écoulement des produits, réseau de distribution, consommateurs solvables, réalisation d'un profit réutilisable, tous ces éléments vont s'englober en quelque sorte dans la marchandisation de plus en plus grande de la société. Ce processus, selon la majorité des historiens, commence dans l'économie monde européenne à la fin du XIVe siècle. En gros, on voit déjà les ferments actifs de ce type de processus à ce moment-là, et s'épanouit, son apogée, en quelque sorte, se situerait à la fin du XIXe siècle. Je ne sais pas si c'est vrai, peut-être qu'il y a de nouvelles apogées qui viennent, hein, mais en gros, l'idée c'est que ces éléments sont vraiment arrivés à leur pleine maturité à la fin du XIXe. Et donc, faites le calcul, ça fait quand même quelques siècles importants, mais à l'échelle de la longue histoire, c'est très court. Si on regarde vraiment dans le temps très long, c'est un phénomène hyper récent, en quelque sorte. Bien, alors, toute cette longue évolution, marchandisation de la société, circulation du capital, qui s'étend donc sur 4 ou 5 siècles, pose quantité de problèmes. C'est loin d'être un long fleuve tranquille, si je puis dire. D'abord, parce qu'il y a toutes sortes d'obstacles, ou de dérivatifs, des dérivations, en quelque sorte, au cours principal du fleuve, si j'ose dire. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'abord? C'est que la création de marchés ne se fait pratiquement jamais d'elle-même. Elle passe à peu près toujours par une phase de construction de monopole, en particulier pour ce qui est du grand commerce extérieur. J'y reviendrai si j'ai le temps. Mais les premiers grands pas du commerce extérieur se solidifient, se consolident, non pas sous un régime de liberté de marché, pas du tout, mais sous un régime de monopole, de réglementation, de protection des espaces. Donc, marchandisation, oui, mais pas toujours tout de suite, ni n'importe comment. Deuxième élément, la concentration du capital a aussi des avatars. Elle ne se fait pas de manière harmonieuse. Elle ne se dissémine pas comme ça partout où elle passe. Dit encore autrement, cette concentration du capital crée sans cesse de nouveaux pôles qui vont d'abord se répartir le profit principal et laisser les profits secondaires à d'autres. Et donc la géographie politique suit évidemment les modes de constitution du capital au niveau international. Donc, en quelque sorte, cette croissance de la marchandisation de la société, de l'économie, n'est pas le garant d'une répartition uniforme, d'un développement égal de toutes les parties de l'économie monde considérée. Ensuite, troisième question, troisième problème qui perturbe le parcours, c'est que ce n'est pas un phénomène linéaire et progressif. On ne part pas de Christophe Colomb jusqu'à Richard Arkwright comme une belle ligne, une belle flèche qui avance dans le temps, comme ça. Non, il y a des cycles d'expansion et de stagnation du système, et même parfois de régression. Alors, disons qu'en gros, le XVIe siècle, malgré tous les conflits gravissimes internes à l'intérieur même du système, parce que le XVIe siècle n'a pas été un siècle pour rire, si j'ose dire, à l'intérieur, eh bien, est un siècle, malgré tout, grosso modo, d'expansion forte pour cette économie monde. En revanche, le XVIIe est une période soit de stagnation ou de récession. Donc, ce n'est pas un phénomène, je dirais, une grande flèche vers l'avenir, c'est un phénomène très, très fluctuant et même parfois avec des crises graves, destructives à certains moments. Qu'est-ce qu'on observe? Eh bien, déjà, pendant cette période-là, on observe le déclassement de certaines productions. Ce qui était un noyau de développement, par exemple l'industrie textile dans les Pays-Bas, en Flandre, au XIVe, XVe siècle, c'était la grande industrie pour l'époque, eh bien, deux siècles plus tard, a été complètement déclassé par d'autres, par des concurrents d'abord, et par d'autres activités ensuite. Donc, dit encore autrement, ce n'est pas un anachronisme que de parler de la délocalisation permanente des activités économiques. On la voit déjà dès le début du système. Le système lui-même donc a une configuration géographique, je vous l'ai dit, qui va perpétuellement bouger. Donc, il n'y a pas de frontière fixe, en quelque sorte. Les centres vont se faire les guerres entre elles, bien entendu. Certaines vont supplanter rapidement d'autres. L'exemple, quand même assez stupéfiant, c'est l'exemple d'Anvers. Anvers était dans le nord-ouest de l'Europe, la ville la plus peuplée, puisqu'elle a pu atteindre jusqu'à 100 000 habitants, à peu près, dans la seconde moitié du XVIe siècle. Ben, il ne lui a quand même pas fallu beaucoup de temps pour tomber de beaucoup et se faire supplanter très rapidement par Amsterdam. Donc, c'est pas des... on n'a pas gagné tout de suite. Et ce n'est pas parce qu'on a gagné une fois qu'on gagne toujours, en quelque sorte. Donc, il y a là une certaine incertitude dans le processus, bien entendu, en tout cas dans les résultats. Idem dans ce qui est la taille des zones intermédiaires et, bien entendu, de la périphérie, qui, elle, est encore plus... Alors, cette configuration, on pourrait se dire que c'est comme une espèce de phénomène, comme une pieuvre, hein, elle mange tout, quoi, hein, au bout d'un temps. Ben, oui, oui, bien sûr, la tendance générale est bien sûr celle-là, mais il y a quand même des résistances fortes. Exemple, le Japon. Le Japon n'a pas été englobé dans l'économie monde européenne, puisqu'il, dans la seconde moitié du XVIIe siècle, eh bien, ils en ont éliminé les éléments qui pouvaient perturber la stabilité politique, sociale, traditionnelle. Ils ont fait un cran d'arrêt, alors qu'ils auraient pu être mangés de l'intérieur, phagocytés par le capitalisme anglais ou hollandais, etc. Ils n'ont pas été. En tout cas, pas tout de suite. Ils ont fait un cran d'arrêt très fort. Donc, il y a des résistances. Il y en a eu, mais pendant un certain temps seulement. Alors, cinquième problème, enfin cinquième élément qui fait que ce n'est pas un long fleuve tranquille, purement économique comme ça, purement naturel, entre guillemets, c'est que à chaque moment important du développement de la nouvelle économie née des grandes découvertes, apparaissent l'importance des structures de l'État. Là encore, c'est une autre idée, c'est que, c'est une idée qui revient assez fréquemment, c'est que le capitalisme vit mieux sans État, depuis le début, que son milieu naturel, c'est moins d'État. Ben, toutes les études historiques, un tout petit peu sérieuses, prouvent que c'est exactement le contraire. Que pour consolider la compétition entre les différents centres, entre les différents pôles de l'économie monde, toutes les nations, tous les peuples, ont visé en quelque sorte à créer des structures étatiques de plus en plus fortes, de plus en plus invasives aussi, dans la vie collective, quotidienne même, des gens. Et que même ces structures étatiques, à leur tour, vont, par leurs besoins propres, c'est-à-dire leurs besoins fiscaux notamment, avoir un effet en retour sur le monde de la finance, puisque une grande partie de l'accumulation en tout cas du métal précieux, et la circulation du métal précieux passe par la ponction fiscale et par les financements, par les banquiers, des besoins de l'État. Donc, c'est plus compliqué qu'on ne croit, un capitalisme sans État, c'est une utopie qui ne tient pas debout. Et ça n'a jamais tenu debout, c'est depuis le début une chose inexorablement liée. Alors, pour créer cette force économique, cette mondialisation et marchandisation de l'économie, il fallait, à un certain moment, développer des politiques qui sont à la fois destinées à encadrer l'économie, à la favoriser et à la rendre plus concurrentielle, plus forte, par rapport à des économies concurrentes. C'est le rôle de l'État, et on le demande à l'État. C'est en gros ce qu'on a appelé le mercantilisme, bien sûr, enfin, les mercantilismes, en quelque sorte. Les mercantilismes sont bourrés depuis le XVIe siècle, donc les premiers mercantilismes réels apparaissent comme économie politique, en quelque sorte, apparaissent quand même au XVIe siècle, fin du XVIe siècle. Ces mercantilismes sont bourrés de contradictions internes. Parce que si un système mercantiliste fonctionne complètement, il condamne son pays à une inflation interne importante. M'expliquant autrement, si on se protège, en quelque sorte, très fort contre la concurrence étrangère, qu'on concentre le métal précieux chez soi, eh bien, les prix vont augmenter très fort chez soi. Et par conséquent, l'avantage que l'on pouvait avoir au début par rapport aux autres économies va diminuer, parce qu'eux auront des coûts de production plus bas que dans l'espace hyper protégé. OK ? Mais d'un autre côté, si on s'ouvre à la concurrence directe, on risque d'être complètement noyé et de ne pas pouvoir développer ses propres activités productives. Et donc, il faut moduler. Et dès le début, ça peut être un problème extrêmement grave. Et là, le levier qu'on a privilégié, c'était au fond le seul sur lequel on avait un tout petit peu de prise, c'était sur les flux de métaux précieux. Depuis le début, on essaye, en fait, l'idéal, c'est d'amener le maximum de métal précieux chez soi afin de gonfler la richesse possible et de pouvoir, en quelque sorte, acheter ce qui est nécessaire qu'on ne peut pas produire chez soi à l'extérieur. Donc, avoir quand même des échanges. L'échange est nécessaire, bien entendu, mais de manière limitée. C'est-à-dire, c'est à la fois une antinomie entre la volonté d'échange et la volonté d'autarcie, quelque part. Et donc, le mercantilisme est un nœud de contradiction, quelque part. Et toutes les monarchies, en tout cas européennes, vont se trouver confrontées à ce nœud terrible. Oui ? Bien. Alors, quelles sont les questions récurrentes, en tout cas à partir du XVIe siècle ? Premier problème lancinant, c'est celui de l'afflux des métaux précieux. Alors, on peut partir de l'idée que, un peu simple, mais qui est vrai pour tout le monde, hein, celui qui est le plus riche, c'est celui qui a le plus d'argent. À l'époque, ça veut dire la nation la plus riche, en principe, c'est la nation qui a le stock de métaux précieux disponible chez elle le plus important. Elle est la plus riche. Elle peut créer des armées, elle peut payer des armées pour aller détruire son voisin. Au fond, c'est ça le but. Hein, puisqu'alors, on peut avoir encore plus de richesses après. Donc, celui qui a le plus de métal précieux a la plus grande force politique et militaire, et donc il doit être en principe le mieux. Hein, il doit être au top. Le problème, c'est que ça ne va pas comme ça. C'est que très vite, on voit que cette accumulation, cet afflux de métaux précieux, après toutes sortes de biais, bien entendu, ça n'est pas automatique, engendre une inflation importante, une révolution des prix, comme on dit. Elle est mesurable, plus ou moins quand même, elle est mesurable en Espagne, d'abord, dès le début de la seconde moitié du XVIe siècle. En quelque sorte, une fois qu'on a raflé tout l'or possible chez les Indiens, les Aztèques et les Incas, et qu'il n'en reste plus beaucoup à l'état natif, si j'ose dire, la première chose qu'on fait, c'est chercher de l'argent. On parvient à en développer la production de manière importante. D'abord au Mexique, ensuite dans les mines du Potosi. Bon, ça, c'est le grand afflux, en quelque sorte. Et donc, le premier pays qui va connaître les désagréments, quelque part, des grandes découvertes du point de vue économique, c'est l'Espagne. L'Espagne est très riche, opulente. Elle a le monopole en principe, en tout cas légal, elle a le monopole des transferts de métaux précieux du Nouveau Monde vers l'Europe. Elle est très riche, mais elle est une éponge. Elle est une éponge parce que la plus grande partie de ce métal précieux, une fois arrivé, ressort inexorablement vers l'extérieur. Et donc, ce n'est pas toujours celui qui a fait la grande découverte qui est le plus riche, à terme, c'est celui qui profite de la grande découverte, mais pas celui qui l'a fait, nécessairement. Okay? Bref, ce problème de la monnaie, ce problème donc d'abord du métal précieux, va turlupiner l'économie. Pourquoi ? Parce qu'il y a plusieurs réponses possibles, plusieurs interprétations possibles. Certains disent, c'est bien, l'inflation qui va apparaître dans la seconde moitié du XVIe siècle, et qui va connaître des hauts et des bas, bien sûr, par la suite, cette inflation, cet afflux de métal précieux, va être bénéfique au développement économique européen. Le raisonnement simple est à peu près le suivant. S'il y a inflation, donc inflation générée par un afflux de métaux précieux, s'il y a inflation, le producteur a l'espoir d'avoir des prix meilleurs, des prix plus élevés après. Il produira à un coût de production X, les prix seront Y mieux, si j'ose dire, hein, après. Et donc, s'il a l'espérance d'avoir des prix meilleurs, il aura une tendance, forcément, à investir, à continuer, à poursuivre, à innover, à créer de nouveaux produits, donc c'est bien. Quand même un correctif à ça, c'est que, dans une vue statique de l'économie, c'est vrai, mais l'inflation, elle touche tous les produits. Et donc, lui aussi va avoir un problème assez rapidement, puisque ces matières premières, elles aussi, vont coûter plus cher. Et donc, il y a une espèce de course-poursuite. Mais l'idée, en quelque sorte, c'est que l'inflation, à condition qu'elle ne soit pas une hyper-inflation, bien entendu, mais que l'inflation est productive, elle est incitative au développement économique et que c'est un bienfait. Première version de la chose. Deuxième version, non. Exactement le contraire, dire non. L'inflation, c'est destructeur. C'est destructeur parce que, d'abord, les nouvelles richesses qui ont été amenées, qui ont été créées, ont été dilapidées dans des dépenses militaires qui ne sont pas des dépenses productives, in fine, elles sont des dépenses destructives, en quelque sorte. Elles ont été absorbées par le prestige politique des grandes monarchies de l'époque. C'est beau, Versailles, mais ça ne sert à rien. Oui. En étant un peu trivial, c'est vraiment très beau. Le baroque, c'est très beau, mais ça ne sert à rien. C'est pas, ça ne permet pas de recréer à partir de cela de nouvelles richesses. Une fois que c'est là, c'est consommé, en quelque sorte. Donc, l'idée, c'est que l'inflation créée par l'afflux de métaux précieux a été dilapidée et que ça a eu donc une influence destructive, peu incitative, en quelque sorte, à l'innovation économique. D'autres théories, bien entendu, sont en usage, enfin d'autres observations. L'idée, c'est que on se fixe trop sur l'aspect montée des prix, ce qui, selon certains historiens économistes, joue le plus grand rôle. Ce n'est pas la montée des prix, mais la baisse du taux d'intérêt, parce que c'est la baisse du taux d'intérêt qui va être, lui, réellement incitatif à l'investissement, et pas le niveau moyen des prix. Je passe sur l'idée, enfin, c'est quand même une petite idée, hein. On a calculé, mais ces calculs valent ce qu'ils valent, hein. Je ne les garantis pas sur facture, qu'en moyenne, à la fin du Moyen-Âge, les taux d'intérêt oscillaient entre 4 à 5 % et que, à la fin du 16e, début du 17e siècle, les taux moyens tournaient autour de 2 %. Et donc, le crédit est un meilleur marché, si j'ose dire. Et donc, c'est mieux pour le développement de la machine économique. Autre idée, et c'est une idée qui revient quand même très très souvent et sur laquelle on a des chiffres aussi possibles, c'est que la croissance des prix, l'inflation, est un phénomène intéressant, pas parce que les prix augmentent, mais parce que les salaires n'augmentent pas à la même vitesse. Or, si on part de l'idée que c'est le travail qui crée les biens, la différence entre le salaire qui est en retard et le prix qui augmente, il va où? Ben, il va dans la poche de celui qui est le détenteur préalable du capital, bien entendu. Donc, ça paraît assez simple. Et donc, l'idée, c'est que cette inflation des prix, accompagnée d'une relative stagnation, voire même d'une baisse des salaires, a permis la réalisation massive de l'accumulation du capital au cours des 16e, 17e, 18e siècles. Mais ce n'est pas toujours aussi simple, parce qu'il ne s'agit pas seulement du montant nominal des salaires. Il faut aller au-delà de cette question du montant nominal. Il faut voir ce qu'on appelle le pouvoir d'achat du salaire, pour pouvoir mesurer effectivement l'impact sur la vie, tout simplement, des gens. Alors là, c'est un exercice que j'ai fait, comme beaucoup d'historiens économistes, il y a des années. C'était comparer. Et il y a des gens vraiment très intéressants qui ont fait ça. Hein. Comparer le prix moyen du blé, des céréales, avec les séries possibles, reconstituables de salaires. D'avoir des séries plus ou moins continues et plus ou moins homogènes. Autant vous dire que c'est vraiment pas du tout évident de parvenir à faire ça. Enfin, si on parvient à reconstituer ce genre de choses-là, on peut voir combien un salaire peut acheter de kilos de blé. Et ça, c'est le vrai pouvoir d'achat du salaire. Bien. Alors là, quantité d'historiens ont travaillé là-dessus. Voilà, je reviens en arrière. Et je dirais qu'en gros, mais ça vaut ce que ça vaut. Hein. Donc, disons que l'allure est peut-être correcte, mais je ne garantis pas l'exactitude des chiffres. Si on prend les salaires dits réels avec un indice 100 en 1800, on voit l'évolution des dates, eh bien, on voit tout de suite que le pouvoir d'achat va connaître un pic peu avant les grandes découvertes, peu avant les grandes découvertes, et puis qu'il va connaître une solide belle chute. Si ce pouvoir d'achat a diminué après les grandes découvertes, on peut supposer que l'afflux de métal et la croissance des prix, il faudrait un autre graphique qui vous mettrait les prix de l'autre côté, que cette différence entre les deux a été synonyme d'appauvrissement de masse dans la société européenne et de réalisation de hauts profits de l'autre côté. Donc la réalité serait donc duale et profondément duale à ce moment-là. Bien. Oui. OK. Alors, ça c'est le premier aspect, les prix, etc. Quantité d'auteurs ont écrit là-dessus. Je vous signale, je vous l'ai montré précédemment, il y a un ouvrage fondamental sur la question. Enfin, il est très bien fait, réédité par l'historien français, mais qui est décédé maintenant, Pierre Villard. C'est vrai, là, on peut comprendre. Je veux dire, on peut rendre cette chose très compliquée à expliquer, si on veut. Hein. Ça peut même devenir incompréhensible ou possible. Mais cet ouvrage-là, fait par un historien, rend compréhensible les relations qui existent entre le métal précieux, la monnaie et les prix, qui sont quand même des éléments fondamentaux pour comprendre l'époque moderne. Bien, alors, ça c'est le problème du salaire réel. Bien, alors, qu'y a-t-il encore de fondamental à raconter? Avec l'époque moderne, on voit se développer de plus en plus des techniques nouvelles, des techniques marchandes, des techniques financières, des techniques bancaires. Elles ne sont pas, dans la plupart des cas, des créations ex nihilo. Elles n'apparaissent pas comme ça tout de suite après Christophe Colomb. Non, elles ont des sources qui remontent quelquefois au XIIIe siècle, le plus souvent dans les villes d'Italie du Nord. C'est là qu'on trouve les premiers grands éléments importants d'innovation en matière d'accumulation de richesses, de techniques marchandes et bancaires. Florence, Gênes, Venise, etc. sont les vraiment premiers berceaux. Mais quand même, c'est à partir du XIVe, XVe siècle que le professionnel de la marchandise, le marchand, acquiert des techniques de plus en plus sophistiquées, ayant recours au calcul. Il ressemble de plus en plus à ce que nous appelons l'homo economicus. Il est capable de calculer ce que ça va lui coûter et ce que ça va lui rapporter. Et pas seulement dans l'immédiat, il est capable d'anticiper. Il sait faire des coûts, il sait calculer des coûts d'une opération commerciale et puis industrielle par la suite. Il peut calculer les coûts prospectifs. Et ça, c'est une révolution mentale, quoi. Je ne veux pas dire que les gens avant étaient incapables tout à fait de le faire, mais maintenant, il y a des techniques qui lui permettent de le faire de mieux en mieux. Il peut, par le calcul, de plus en plus. Et d'ailleurs, il est bien connu en histoire des sciences que les premiers grands traités d'arithmétique et de géométrie de la Renaissance sont très souvent des ouvrages d'arithmétique et de géométrie, de calcul de proportionnalité, utiles et nécessaires aux marchands. Ces deux mondes sont inséparables au départ. Alors, dans cette grande série donc, d'ouvrages et de personnages qui ont travaillé à l'apprentissage de la marchandise, il y a des grands traités de ce qu'on appelle des traités en italien de pratica della mercatura, donc pratique de la marchandise, si vous voulez. Ça apparaît déjà au XIVe siècle, sous forme manuscrite, et puis, avec l'invention de l'imprimerie, on commence à en publier de plus en plus, d'abord au bénéfice des grandes maisons de commerce italiennes, ensuite des grandes maisons de commerce allemandes, et puis de tous les autres aussi, bien entendu. Alors, dans cette grande série de traités qui apprennent aux marchands à réaliser son art, ars mercatoria, donc sa pratique devient de plus en plus savante, de plus en plus instruite, il y a besoin d'un apprentissage pour devenir marchand. Dans cette grande série, il y a quand même un événement qui fait le désespoir de tous les étudiants depuis des tas d'années, c'est Luca Pacioli, qui publie en 1494 la Summa de Arithmetica, etc., 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 que tous les gens qui ont fait sciences économiques connaissent. Oui ? Non ? C'est le père de la comptabilité à partie double. Il est considéré comme le père de cela. C'est évidemment ce mode-là qui va, cette comptabilité à partie double, qui va permettre, qui va être un instrument, en tout cas, pas qu'elle va permettre en soi, mais c'est un instrument vraiment de plus en plus indispensable à la réalisation de sociétés de commerce. Donc, où on met ensemble du capital, soit pour une certaine période, soit pour, en principe, à perpétuité, mais où l'on met ensemble des patrimoines différents pour réaliser du profit sur des opérations commerciales communes. Il faut donc, au bout d'un certain temps, redistribuer le profit entre les participants à l'association. Sans comptabilité à partie double, vous aurez les pires ennuis pour faire ça. Ce sera très difficile. Et donc, le développement de cette comptabilité est un mouvement important qui apparaît d'abord en Italie du Nord, c'est pourquoi on l'appelle la comptabilité italienne, fin du XVe siècle, et puis elle va croître et embellir tout au long des temps modernes. Ici, vous avez un de ces ouvrages qui date en fait du XVIIe, celui-là, L'art de tenir les livres de compte en partie double, qui met en scène, en quelque sorte, le monde du marchand, tel qu'on l'imagine, en tout cas, à l'époque, avec les différents centres avec lesquels il fait du commerce, donc on les voit dans les tiroirs, et puis, on voit la comptabilité. Le travail du marchand devient de plus en plus un travail de bureau, quelque part, où il doit tenir des livres, capter des informations, et surtout, pouvoir en tirer le meilleur bénéfice possible. Celui qui maîtrise l'information la meilleure, le plus vite possible, et qui est capable de calculer, aura un avantage comparé important par rapport à tous les autres. Et ça reste vrai d'ailleurs jusqu'à nos jours. On va bien entendu de plus en plus codifier et instruire et répandre cette connaissance nouvelle. On ne parle pas encore de science commerciale, mais l'art de faire du négoce devient vraiment une connaissance en tant que telle, aussi estimable qu'une autre, aussi estimable que l'art militaire, aussi estimable que la théologie, en quelque sorte. Et donc, prolifération à partir de la fin du XVIIe siècle de quantités d'ouvrages comme Le parfait négociant de Savary. Voilà. Ben, ça, c'est cette profanisation de la marchandise crée, donc, multiplie des connaissances qui se transmettent de plus en plus par l'imprimé. Autre instrument important, sans lequel peut-être le capitalisme aurait pris du retard, si j'ose dire, c'est la possibilité d'avoir assez facilement des instruments qui permettent de transférer des valeurs d'un endroit à l'autre. Transférer de la valeur, à l'époque, au départ, ça veut quand même encore dire, in fine, transporter des ballots d'or et d'argent d'un endroit à l'autre. C'est pas pratique, c'est dangereux, etc., etc. Et donc, une chose quand même extrêmement intéressante, c'est de faire circuler des valeurs avec un papier. On va faire transférer une valeur d'un endroit à l'autre. Alors, ce n'est pas seulement intéressant pour ça, c'est aussi parce que ce papier permet de faire un change, passer d'une monnaie à l'autre. Telle valeur à tel endroit devra être payée avec intérêt dans une autre monnaie à 200, 300, 400 kilomètres. Donc c'est un instrument de transfert et de change. C'est pourquoi elle s'appelle la lettre de change d'abord. Elle sert à changer la monnaie d'un endroit à l'autre. Mais c'est aussi un instrument de crédit. Parce que entre le moment où la lettre est émise et le moment où elle est tirée, il y a un laps de temps. Or, quand on fait du gain avec de l'argent en passant d'un temps A à un temps B, ben on fait du crédit. Quelque part. Et ça, c'est la généralisation de la lettre de change qui apparaît déjà au XIIIe siècle, à Gênes, mais qui va envahir de plus en plus le monde marchand, va être extrêmement profitable à cette économie monde européenne. Elle va se développer et elle va se raffiner, puisque à partir, disons en gros, du XVIe siècle, fin du XVIe siècle, la lettre de change va connaître une amélioration intéressante et qu'on ne connaît plus. Je pense qu'on la connaîtra plus bientôt. On va l'utiliser pratiquement comme un chèque aussi, puisqu'elle permet, si on la porte avec soi, de payer où on veut. Et donc, on va aussi innover, fin du XVIe siècle, en généralisant la pratique de l'endossement. On va endosser, donc d'abord une lettre, c'est quelqu'un qui l'envoie à quelqu'un d'autre, c'est nominatif. Ça reste nominatif, mais celui qui en est le porteur peut la transférer sur quelqu'un d'autre. Donc on va endosser cette lettre. Elle va donc circuler de plus en plus. Une seule lettre de change, jusqu'au moment où elle est finalement payée, peut passer finalement entre 10, 20, 30 personnes. Donc elle peut servir et multiplier les occasions d'échange. Au départ, c'est pour des mauvaises raisons, hein, bien entendu. C'est parce que celui qui est le porteur de la lettre craint de ne pas pouvoir être payé en vraie monnaie. Et donc la première chose qu'il pense faire, c'est de la faire, de la liquider au plus vite au profit d'un autre, si j'ose dire. Donc c'est parfois des mauvaises raisons au départ qui font le profit in fine. Hein. Bon, enfin, ce fut l'amélioration remarquable de cet instrument. Et puis, elle permet la pratique de l'escompte. La pratique de l'escompte, qui permet donc en quelque sorte le paiement anticipé d'une lettre de change, moyennant un intérêt qu'on appelle l'escompte, qui va devenir une activité de plus en plus grande à partir du XVIIe siècle chez les banquiers, les grands banquiers européens de cette époque-là. J'ai encore plein de choses à dire, mais on va en rester là. Merci.
Je remercie beaucoup M. Hervec. Je trouve tout à fait étonnant comme sous l'angle économique, nous sommes bien proches du XVIe siècle. Et je ne doute pas que son exposé ne va susciter des questions ou des remarques diverses et variées. Vous avez la parole.
Je vais peut-être vous montrer les images, ça va peut-être donner des idées supplémentaires. Voilà, je voulais vous parler de la bourse, je ne l'ai pas fait. Je voulais vous parler des grandes compagnies de commerce, notamment la compagnie.
Quand vous vous êtes arrêté au milieu, est-ce qu'on pourrait avoir une conclusion ou... puisque vous avez arrêté comme ça?
La conclusion, j'en avais une, mais je ne sais pas si elle va vous plaire. Enfin, je vais vous la donner quand même. Voilà. En 1562, un Florentin réside à Anvers, qui est la capitale économique du monde à l'époque. Il s'appelle Louis Guicciardin, Lodovico Guicciardini. Et il fait, dans son ouvrage, une description du monde commercial d'Anvers, qui pour lui est la capitale du monde économique à l'époque. Et alors, je ne peux pas vous le dire in extenso, parce que, hein, enfin, ça donne à réfléchir. Il dit, en premier lieu donc, je dis, qu'en Anvers, outre les gens du pays, qui en très grande multitude y affluent et habitent, et outre les marchands français, desquels en temps de paix y en vient grande affluence, il y a six nations principales, lesquelles, et en guerre et en paix, y résident, et lesquelles font le nombre, de plus de 1000 marchands, y compris leurs principaux facteurs et ministres. Et ceux-ci sont les Allemands, les Danois et Osterlin. Osterlin, c'est des gens qui viennent de l'Est. Ensemble, les Italiens, Espagnols, Anglais et Portugais. Mais il y a peut-être plus d'Espagnols que d'autres nations. Comme aussi sans mentir, il y en a plusieurs d'entre eux qui s'y sont mariés et domiciliés. Tous ces marchands observent les lois et ordonnances de la ville. Et quant au reste, chacun vit, se vêt et se maintient librement à sa fantaisie. Et à dire vrai, les étrangers vivent en plus grande liberté ici, en Anvers, et par tous ces Pays-Bas, qu'on ne fait en quelque autre pays que ce soit de tout le monde. De sorte que c'est un cas merveilleux de voir un tel mélange d'hommes, de si diverses humeurs et qualités, et plus encore, d'ouïr une telle variété de langages et si différents l'un de l'autre, tellement que sans loin voyager, en une seule ville, vous pouvez voir et, s'il vous plaît, imiter le naturel façon de vie et coutume de plusieurs nations lointaines. Voilà. C'est l'éloge du cosmopolitisme, mais aussi de la tolérance, quelque part, qui était la belle face du développement du capitalisme marchand de l'époque. C'est aussi, si vous y regardez bien, il y a un tableau qui symbolise très très bien ça à l'époque. Le tableau date de 1563. C'est la tour de Babel de Bruegel, qui est aussi, en quelque sorte, l'image du monde qui est à la fois fait d'espérance, mais aussi d'un orgueil qui va vous détruire, quelque part. Mais bon, c'était voulu. Hein. Bruegel savait ce qu'il voulait exprimer cela. Voilà. Ça, c'était la conclusion.
Des questions ou des...
J'aurais voulu avoir une petite précision parce que je ne connais absolument rien ni en économie ni en comptabilité. Vous avez parlé du père de la comptabilité à partie double, mais qu'est-ce que la comptabilité à partie double ?
Bon, c'est très simple. En fait, le point de départ, c'est de mettre en parallèle le débit et le crédit d'une opération. C'est différent de ce que... Quand vous allez à la banque, hein, vous avez vos extraits de compte. Ben ça c'est bien, c'est intéressant, c'est un journal de vos opérations. Mais ce n'est pas une balance de ce que vous devez et de ce qu'on vous doit. Okay? Une entreprise doit avoir et doit mettre en balance ces deux types d'opérations afin de pouvoir in fine faire un solde qui sera réparti entre les associés. Voilà. C'est le béaba, hein, parce que des comptabilités à partie double, ça peut donner lieu à des sophistications importantes, qui sont le métier de comptable, tout simplement. À l'heure actuelle, le groupement professionnel des comptables et des experts financiers en Belgique publie un bulletin professionnel qui s'appelle Pacioli, encore toujours. Donc c'est, pour eux, c'est leur père fondateur, quoi, quelque part. Ben, il y en a eu d'autres, hein, bien entendu, après. Mais c'est ça, la comptabilité à partie double, c'est celle qui est nécessaire pour mener et voir clairement où on en est dans des opérations faites sous forme de société. Pour un individu, il peut le faire aussi. Hein. Il n'est pas interdit. Une personne peut aussi faire une comptabilité à partie double, mais c'est moins intéressant, en quelque sorte. Parce qu'in fine, le solde, c'est quand même lui-même qui l'aura pour lui tout seul. Ou la perte. Bien entendu. Tandis que quand il y a des associés, ils doivent pouvoir voir l'ensemble des choses qui vont avec.
Ah, comme ça. Mais bon. Lorsque Jean Bodin répond au paradoxe de Malestroit sur le fait des monnaies, il va, je pense, un peu au-delà de ce que dit Malestroit en disant qu'il faut développer l'économie et qu'il faut s'ouvrir à des marchés extérieurs.
Tout à fait. Hein?
Donc, c'est aussi un personnage qui prend place dans le développement de l'économie, des marchés, etc. Pourtant, initialement, un juriste aurait pu bifurquer vers une autre direction.
Tout à fait. Voilà. Oui. Donc Jean Bodin, c'est vers 1568, je crois, qui est un juriste, un démonologue aussi, il chasse les sorcières, et il répond à un homme, un officier de la Cour des comptes, je crois, qui s'appelait Monsieur de Malestroit, qui comprenait pas pourquoi les prix augmentaient comme ça. Ça l'effarait. Et l'hypothèse qu'ils avaient, que les gens de l'époque avaient assez souvent, c'est que le prince falsifiait la monnaie. C'est vrai qu'il le faisait parfois. Hein? Qu'il diminuait artificiellement, donc il chipait du métal précieux dans la monnaie. Et que donc la valeur unitaire de la pièce diminuait, et donc on demandait plus de pièces pour un même bien, donc qu'il y avait une inflation. Okay? Et Bodin dit, oui, c'est peut-être une cause, mais il y en a une autre. L'autre cause, c'est l'afflux de métal précieux. Et ces difficultés de circulation aussi. Parce qu'il va plus loin que simplement dire c'est à cause du métal précieux venu du Nouveau Monde. Mais il est quand même un des premiers à le dire et à mettre en avant le fait que c'est une utopie que de croire qu'on pourra mettre l'argent et le garder pour soi. Parce que c'était au fond, hein, quelque part, l'idée. Hein, captons le métal précieux, enrichissons-nous, mais surtout qu'ils sortent le moins possible. Et ça, ils disent, c'est une aporie, c'est impossible. Si vous voulez ça, vous allez vous tuer vous-même, parce que l'argent que vous recevez, de plus en plus, va vous tuer vous-même. Il va créer, il va détruire en quelque sorte le pays dans lequel il va se trouver. En y créant, parce que c'est un moraliste aussi, hein, en y créant des biens indésirables, le luxe. Il est contre le luxe, évidemment, les dépenses somptuaires, tout ça. L'afflux de richesses sous forme de métal précieux, c'est bénéfique, mais ça peut aussi créer une dépravation, en quelque sorte. Il y a encore un message de type moral, évidemment, qui apparaît chez Baudin.
Pourquoi le métal précieux joue-t-il un tel rôle dans l'économie?
Il y a plein de
questions très naïves, hein, mais...
Ben, d'abord parce qu'il est relativement rare quand même. Hein.
Oui.
C'est pas comme du cuivre ou du fer. C'est qu'il se conserve relativement bien. Mm-hmm. Et c'est qu'il est fractionnable de manière assez remarquable. Donc vous pouvez avoir des petites pièces avec un faible poids et des lingots en quelque sorte. Donc vous pouvez subdiviser en quelque sorte. Comment on appelle ça encore? Ça porte un nom technique. C'est comme un train, quoi. Un train, vous pouvez le couper en morceaux. Et bien, la monnaie aussi, vous pouvez la subdiviser en quelque sorte en petites. Et puis, donc c'est quelque chose de relativement rare, c'est quelque chose de subdivisable, c'est quelque chose de relativement stockable, qui ne dépérit pas. Le cuivre s'abîme beaucoup plus vite qu'une pièce d'or. Je pense que c'est parmi les principales raisons. Oui, encore de nos jours d'ailleurs. Hein. Pourquoi achète-t-on de l'or? Parce que c'est un refuge qui est facilement stockable, relativement facilement dissimulable. C'est d'ailleurs encore pour ça qu'on trouve des trésors de l'Antiquité, évidemment. c'est une vraie raison. Mais passé un certain stade, ça devient un ennui aussi. Parce que quand on va transférer des millions et des millions, là, ça devient un problème pratique, effectivement. Enfin, c'est une réserve de valeur que l'on peut transformer aussi. Donc on peut transformer un lingot, le métal précieux brut, on peut le transformer en vaisselle. Et cette vaisselle, on peut même, si on en a vraiment besoin, la transformer sous forme de pièce. C'est ce qui se faisait à l'époque. Donc c'est pratique. C'est pratique.
D'autres questions?
Oui, de très près. Monsieur, dans l'ouvrage de Weber, dans les prérequis, la dernière partie, c'était la commercialisation, les titres négociables, la bourse, la spéculation, et vous n'avez pas beaucoup disserté sur cette partie.
Mmh. Oui. Ben, il y a l'idée que la bourse, c'est la perdition du système. C'est là où on vend du vent. C'est l'idée. Il dit oui, c'est vrai, mais c'est du vent qui fait soulever de l'argent. C'est-à-dire que c'est là où celui qui a des écus, qui a de l'argent, aura l'espérance de le faire fructifier le plus vite possible. En quelque sorte, la bourse vide le trésor, les trésors qui ne servent à rien, qui sont improductifs, parce qu'elle fait remonter à la surface l'argent superflu. Et donc, elle utilise, c'est une vieille image, hein, les défauts, la cupidité de l'être humain est un bienfait économique puisqu'elle permet de faire ressortir des biens qui seront in fine utiles à l'économie. Donc la spéculation, c'est pas beau moralement, mais c'est très bien économiquement parce que elle suscite le besoin de spéculer et donc de sortir de l'inactivité des biens précieux et rares. Voilà, en fait c'est ça. Spéculer, jouer, c'est bien. Du point de vue économique, ça fait circuler des biens qui autrefois étaient thésaurisés, enfouis et improductifs. C'est ça le raisonnement. J'ai pas dit que c'était convaincant. Moralement, on peut le trouver très moche, mais si vous jouez en bourse, vous sortez de l'inactivité des biens qui étaient en train de dormir. Voilà. Je ne dis pas que c'est bien, mais c'est comme ça. C'est tout. Oui, on peut vendre du vent aussi. Mais ça n'est pas grave non plus. Parce qu'alors là, les plus faibles, les moins les moins experts, les plus naïfs disparaîtront. La crise épure le système. Mais oui, tous les économistes vous diront ça. C'est peut-être un cynisme gravissime, mais c'est celui qui sait que le premier, c'est le plus faible, eh bien, un de moins. Je ne me fais pas l'apôtre du système, mais c'est... Oui, un peu, oui.
Quelqu'un veut-il intervenir sur ces dernières paroles ou allons-nous conclure la séance là-dessus? Bon, je crois que nous allons en rester là. Je remercie encore M. Hervec. Merci.